Bonjour et bienvenue dans Already Flashed, le podcast sur Flash Invaders et les Space Invaders. Un épisode exceptionnel pour les 10 ans de l'application Flash Invaders, dont la toute première version est sortie le 18 juillet 2014, et pour fêter la sortie de la V3 en ce mois de juillet 2024. J'ai le plaisir d'accueillir les deux développeurs de Flash Invaders, Adrien et Julien. Salut!
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 Pour commencer, est-ce que vous pourriez faire un historique rapide de Flash Invaders? Comment tout a débuté et qui a eu l'idée à l'époque?
Très bien, bah, je vais commencer. Alors, donc on est en mars 2013, on travaille tous les deux à LTU, une boîte à Paris, rue de Rivoli, qui a donc une techno de reconnaissance d'images. La boîte laisse des vendredis d'innovation, donc un vendredi sur deux, on peut travailler sur un sujet qui nous plaît. En gros, utiliser la reconnaissance d'image ou améliorer des aspects qui nous tiennent, des outils. J'avais travaillé sur une reconnaissance de jaquette de CD et un autre projet de reconnaissance d'affiches de films. Et ben, en étant en plein milieu de Paris, à deux pas des Halles, un midi, en mangeant un sandwich et en regardant un des invaders que je connaissais, je m'intéressais au street art depuis un petit moment déjà. Et en regardant un dans le contexte de la rue, je me suis dit que avec l'éclairage, la prise de vue, les déformations, ça serait un bon challenge pour la reconnaissance d'image. Et donc, bah, je suis allé voir Julien. On n'avait pas encore fait de projet d'innov ensemble et je lui ai proposé. Et il était assez enthousiaste. Je pense qu'il ne savait pas à ce moment-là jusqu'où ça nous emmènerait.
C'est sympa.
Vas-y, Julien, je te laisse continuer.
Oui, ouais, je peux parler brièvement de LTU. Donc, LTU, c'était une petite société qui avait été créée par deux chercheurs, c'est une petite Adrien, et puis rachetée par une grosse société japonaise. Voilà, donc on était une petite start-up, on était. Quinzaine, avec un bureau à New York. Donc, on avait plusieurs modèles économiques associés à la technologie de reconnaissance d'image et d'appairage d'image, mais on essayait un peu de trouver des nouveaux fonctionnements. Donc, c'est pour ça que la société, en fait, nous permettait, pendant 10% de notre temps de travail, ben, de travailler sur de nouveaux projets, sur de nouveaux fonctionnements. On était libre de faire ce qu'on souhaitait à travers la technologie.
D'accord. Vous avez commencé par jouer avec la reconnaissance d'image des invaders autour de vous.
Exactement, oui.
Et l'idée a germé d'aller un peu plus loin.
C'est ça, on a commencé à prendre un peu les invaders qui étaient autour de nous. Donc, il y en avait un certain nombre rue de Rivoli. Mettre ça dans une base de données et puis voir un petit peu ce qui se passait.
On travaillait en parallèle sur un framework d'intégration facile de la techno sur iOS et Android. Mmh. Donc on s'est réparti comme ça le boulot, moi iOS et Julien Android. Juste parce que moi j'avais un iPhone et que Julien avait un Android. Et comme ça, bah, en même temps, on pouvait tester ce framework qu'on développait pour les clients de la boîte.
Ouais.
Et voilà, et très rapidement est arrivée la problématique que ben, si on veut faire ça bien, ben, il nous faut toutes les images, au moins des Parisiens, et toutes les localisations.
Pour la base de données.
Donc, en le 10 avril 2013, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai envoyé un email à Invader, lui expliquant rapidement qui on était, le principe, ce qu'on imaginait, et en lui demandant, peut-être un petit peu naïvement avec le recul, mais en lui demandant toutes ces images et toutes les positions GPS.
Donc, c'est-à-dire tout son travail.
Tout son travail. Ce à quoi il a répondu non. Ce qui est quand même assez logique quand on sait la masse de travail que ça représente. Mais ça ne nous a pas spécialement... ça nous a un peu attristé, mais on a quand même continué, pensant que l'idée était bonne, et puis en se disant, bah, de toute façon, on verra bien.
Donc, Adrien a eu la bonne idée d'aller, on n'était pas loin du Forum des Halles, donc il a couru à la FNAC, il a acheté l'édition Paris, il a découpé en morceaux et l'a scanné page par page.
Ah oui.
Pour récupérer les positions GPS et les images de tous les invaders de Paris.
On m'a
sous
regardé
regard
bizarre.
horrifié de toute la société.
On m'a regardé bizarre ce jour-là.
Donc, au tout départ, Invader n'était pas partant.
Ouais, c'est ça. Il n'était pas partant pour nous donner sa base, hein, sa base
Ouais.
d'image.
Et en fait, en scannant le livre et en récupérant les positions GPS, je me suis rendu compte dans la carte qu'il y avait deux petites erreurs qui étaient faites dans la carte qui est au début des livres. Et donc, quelques mois plus tard, en août, je lui ai réécrit en lui disant, au fait, voilà, on a continué, j'ai remarqué qu'il y avait ces deux petites erreurs. Et quand il a lu ça, il s'est dit que déjà on était motivé et puis que ces erreurs, il les avait pas vues avant. Donc il a accepté qu'on se rencontre. Et le courant est bien passé. À ce moment-là, en plus, il cherchait à uniformiser un petit peu tous les spaces qu'il avait. Et ça tombait exactement, c'était exactement ce dont on avait besoin pour faire fonctionner l'application. Avoir une base de données propre. Parce que jusque-là, il en avait certains dans des carnets, d'autres dans des feuilles Excel. Donc voilà. Et en même temps, il voulait refaire son site. Et pour maintenir le jeu, il fallait avoir un site, un serveur qui tourne en permanence. Donc ça a été un petit peu le début d'une année de travail, hein, parce que là, on est en août 2013. Donc une année de travail pour recréer le site, créer une base de données unifiée et brancher ça à la technologie de LTU.
Ok, c'est les questions que j'allais poser justement après. Aujourd'hui, je pense que le process est rodé, mais en 2013-2014, il a fallu faire un travail de préparation pour référencer les mosaïques, c'est ce que tu disais. Les coordonnées, les photos. Il y avait déjà presque 3000 SI dans le monde, je crois, j'ai vérifié au moment du lancement. Donc ça a été un énorme travail que vous avez fait vous, où il y avait déjà des gens de l'atelier qui pouvaient s'en occuper aussi?
Non, Invader avait déjà centralisé pas mal d'informations. Il y a eu aussi un travail de l'atelier qui a été fait pour réorganiser toutes ces informations-là, les vérifier et les structurer.
Voilà, après, oui, ça a été une année de travail assez intense. On travaillait tous nos vendredis d'innovation étaient totalement dédiés à ça, mais bon, les week-ends y passaient aussi. Et on avait forcément beaucoup de rendez-vous à la base avec Invader. Donc, c'est une créature nocturne. Hein, donc, c'était le jeudi soir, les séances de travail le jeudi soir jusqu'à très très tard. Mais voilà, c'est des souvenirs assez magiques maintenant avec le recul. Moi, je me souviens d'une soirée en particulier où on avait écouté un album de Stupeflip à la base, tout en bossant, en codant tout ça. Et je m'étais dit, je sais pas ce que ça va donner à la fin, mais en tout cas, je sais que je suis à ma place là. C'était.
C'est génial.
Et puis voilà, alors le temps passait, la boîte commençait à nous dire, bon, il va falloir le sortir, hein, parce que normalement, les projets d'innovation, c'était 2 mois, 3 mois maximum. Là, ça faisait bien 10 mois, 11 mois qu'on était dessus. Donc, on avait une petite pression là-dessus. Mais finalement, le 18 juillet 2014, un peu après la mise en ligne du nouveau site, la V1 est sortie.
D'accord.
Est-ce qu'on parle du nom aussi?
Oh oui, mais oui,
Parce
je,
que...
oui. Oui. Alors, dans le premier mail que j'avais envoyé à Invader, était titré très sobrement et pacifiquement Let's Shoot Invader. Donc, ça l'avait plutôt marqué avec le recul. C'est compréhensible aussi qu'il n'était pas très, 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 très
Oui, puis en
chaud.
plus, on était dans une phase où il y avait eu pas mal de destruction à Paris
Oui,
de
tout
voilà.
à fait.
Ah, mais quelle idée incroyable de type!
Et donc oui, j'étais très attaché personnellement à ce Shoot Invader. Je trouvais qu'il y avait le côté du jeu vidéo, quoi, qui rappelle
Ouais.
la base du jeu de Space Invader. On doit shooter les invaders. C'était le shoot photo, etc. Et pendant longtemps, j'en démordais pas, mais Invader était pas convaincu. Et finalement, parce que c'est son application avant tout, et parce que c'est lui qui a le dernier mot comme sur tout, et c'est bien normal, c'est Flash Invader qui a été. Et avec le recul, évidemment, c'est un bien meilleur nom, bien plus
Ouais.
pacifiste.
Les mosaïques posées avant 2014 avaient déjà des valeurs en points, Invader les en associé. Est-ce que certains points n'étaient plus vraiment cohérents au lancement de l'appli? Ou est-ce que l'appli a changé sa façon de donner des points? Vous avez une idée là-dessus?
Ouais, alors, à notre connaissance, non, il n'y a pas eu de changement de sa part. Le positionnement des points, lui, il l'a toujours fait vis-à-vis de la difficulté de positionner des œuvres, de leur complexité. Voilà, je ne pense pas que de son côté, il y a eu de changement significatif avec comment dire, le lancement de l'application. Enfin, il n'y a eu aucun changement, en tout cas, pour l'application à ce niveau-là.
Ouais. L'algorithme de reconnaissance, donc c'était LTU en 2014, il a évolué au fil des ans ou c'est toujours les mêmes technos qu'à l'époque?
Alors en 2018, donc un peu 2 ans après la sortie de la V2, on avait rajouté un email pour le transfert des comptes, etc. Donc en 2018, on a fait, il fallait en fait qu'on soit plus autonome et qu'on ait un meilleur contrôle de la technologie de reconnaissance d'image. Parce qu'en fait, la techno qu'on utilisait de matching de LTU, donc une techno développée par beaucoup de gens très brillants, des chercheurs, des ingés, petite dédicace au passage à tous les gens de LTU qui avaient vraiment créé une bonne atmosphère et une bonne qualité de travail avec ce produit. Typiquement, pour donner une idée, les requêtes de matching d'images qui étaient envoyées, donc un flash, étaient comparées à l'ensemble de toutes les images de référence pour les invaders. Et ensuite, les résultats étaient filtrés par rapport à la position GPS. Donc, c'était toujours un petit peu gênant de se dire, ah, c'est quand même bête qu'on puisse pas d'abord filtrer les positions GPS pour ensuite faire un matching juste sur un sous-ensemble plus petit, géographiquement. Donc, en 2018, je me suis attelé à la tâche, pas évidente et pas triviale de recoder, vraiment de zéro en utilisant des technologies open source. De recoder un matching d'image qui soit vraiment spécialisé et spécifique pour la tâche. Et donc en 2018, j'ai opéré la transition. Le nombre de requêtes augmentait aussi, et donc on avait quand même un petit peu peur que que ça commence à devenir un peu trop chargé pour le service qu'on utilisait sur LTU. Et voilà, ça s'est bien passé.
En douceur, oui.
Ouais. Ce qui était pas gagné, mais ça nous a fait gagner vraiment une centralisation et une indépendance, en fait, qui a permis d'améliorer, par exemple, un des problèmes qu'il y avait avec la reconnaissance d'image à cette époque-là, c'était que les plaques de rue, qui pouvaient être similaires sur des copycat ou d'autres invaders, faisaient des matchs. Du coup, ça entraînait des faux positifs. Et donc d'avoir le matching d'image qui est géré par nous-mêmes, ça nous permet de plus découper les zones de l'image, de plus exclure des zones de l'image qu'on ne veut pas qui matchent. Donc voilà, à l'oral, c'est pas forcément facile à expliquer, mais en gros, ça nous a donné plus de contrôle sur le matching.
Toujours sur la reconnaissance, est-ce qu'elle apprend des flashs précédents? Est-ce que vous surveillez les reconnaissances ou les rejets pour l'améliorer?
Alors, elle apprend pas automatiquement. C'est des choses qui sont faites manuellement, invader par invader, pour améliorer la qualité des flashs. Non, non, non. Ouais, tout est manuel, à ce niveau-là.
En gros, les flashs qui sont envoyés, on les prend et on s'en sert justement pour rajouter des images de référence pour les invaders, afin d'être au plus proche en fait, d'un flash réel.
Comment vous déterminez la tolérance de reconnaissance? Pour des questions de sécurité, j'imagine PA 613 qui est sur le périphérique parisien se flash très facilement d'en haut, alors qu'à l'inverse, le bateau phare a longtemps été un challenge. Vous réglez SI par SI et vous décidez d'assouplir ou non la tolérance?
En gros, alors il y a un peu de cas par cas, mais typiquement pour le bateau phare, bon, même si c'était très amusant d'entendre beaucoup de flasheurs galérer, etc., c'était pas forcément l'idée. L'idée n'est pas de faire galérer les gens, mais c'est que il est là, il est visible, donc il est toujours présent. Mais comme il est recouvert de peinture, la technologie d'identification de points, de reconnaissance de points, de features, elle est forcément très perturbée. Elle ne peut pas fonctionner aussi bien que quand il y a des contrastes clairs dans l'image et dans l'invader. Donc ça faisait qu'il était, il était visible, il était flashable, mais c'était en gros vraiment un aléatoire qui faisait que des flashs passaient ou ne passaient pas.
Ok.
Maintenant qu'il a été nettoyé, plus de problème.
C'est plus simple. Toujours en parlant du bateau phare, donc de PA-209, il y a une époque où la barge du Crous, le bateau qui était juste à côté, flashait mieux que le bateau phare lui-même. Vous étiez forcément au courant, j'imagine. Ça vous a amusé de le laisser comme ça quelques mois?
C'est plus que dans les matching images de référence, il y avait des fois cette barge et elle faisait que des fois ça matchait pour des joueurs. C'est plus une conséquence que quelque chose de réellement voulu planifier.
Oui. Les ghosts sont parfois acceptés par l'appli, donc les mosaïques détruites où il reste plus que l'environnement. C'est une volonté ou ça c'est aussi un effet de l'algorithme?
Ouais, bah c'est toujours une histoire d'image de référence, hein. Donc c'est si c'est l'environnement qui est détecté, il va permettre de flasher l'invader. C'est une histoire d'environnement par rapport aux références d'image. Et c'est ce qui explique aussi PA613, où on va mettre en place des références qui vont venir matcher ben, un peu plus la gouttière que l'invader, parce que l'invader est plus visible.
Ok. Bon, c'en est même au point sur 613 qu'on peut prendre le périph en plan large
C'est ça.
et c'est reconnu, oui. Sans entrer dans les secrets, comment se passe l'activation ou la réactivation côté serveur? Quelqu'un de l'atelier valide la nouvelle pièce et sa reconnaissance?
Alors, c'est toujours Invader qui a le dernier mot sur la réactivation d'une pièce. Et en gros, dans la base de données, c'est lui qui va placer une réactivation, qui va valider une réactivation et qui donc rend le space flashable à nouveau. Ou pas. Si il a été mal réactivé.
Ok. Vous avez ajouté il y a quelques années le mode anonyme et depuis la V3 toute une série de fonctionnalités liées à la confidentialité, comme ne plus apparaître dans le classement ou ne plus permettre d'être suivi. C'était des demandes de flasheurs?
On a eu quelques sollicitations au support concernant l'anonymat. Le principe d'Invader, c'est d'être anonyme. Lui, il y attache une importance, nous également. C'est aussi pour ça que nous, on essaye ben, de collecter le minimum d'informations ben, pour avoir un jeu fonctionnel, mais pas plus. Ces informations-là, on les utilise que pour le jeu, on les met pas à disposition, voilà, on les revend pas. Dès qu'on en a plus besoin, on les supprime également. La seule chose qu'on fait, c'est mettre à disposition ben, le fameux live pour le jeu un peu plus interactif. Mais on veut pas que ça devienne un outil de surveillance, donc on limite un maximum les accès à cet environnement-là. On peut entendre régulièrement que des gens se font bannir à cause de ça, parce qu'ils vont venir essayer de faire requêter sur cette API pour récupérer de façon automatique des informations. Voilà, ce qu'on n'autorise pas, parce que pour nous, l'anonymat, la vie privée, c'est quelque chose d'important.
Ok. Si on reste sur la V3, donc que les flasheurs vont découvrir là dans les jours qui viennent, vous avez ajouté des petites animations lors du changement de point et surtout des nouveaux sons, ça va surprendre. Alors, je ne peux pas m'empêcher de mettre tout de suite le son du match. Est-ce que vous avez eu plein d'autres idées d'amélioration mais pas le temps pour les mettre en œuvre? Vous pourriez nous en donner quelques-unes?
Ben, des idées d'amélioration, on nous en fait souvent au support. Il y a beaucoup de choses qui pourraient être rajoutées, beaucoup de choses qui pourraient être imaginées. Mais fondamentalement, on cherche quand même l'épure. On cherche quand même le principe simple et qui marche bien. Flash Invader, c'est tu te promènes dans la rue, tu vois un space, tu le flashes. Il y a une petite musique, tu marques des points, tu l'as dans ta galerie, t'es content, c'est tout. Donc, on veut pas spécialement complexifier le jeu. On aime la simplicité et en plus elle matche bien avec l'art d'Invader, qui a un art d'essayer d'aller à l'épure, à l'essentiel. Et voilà. Donc avec cette V3, on a fait un travail d'uniformisation, on a essayé de rajouter quelques options, il y a un nouveau zoom. Il y a voilà un retour du flash avec l'image directe de l'invader tout beau quand on le flash et voilà, c'est déjà bien comme ça.
Ouais. Tu parles d'uniformisation. J'avais discuté avec toi, Adrien, il y a quelques années sur le zoom de la version iPhone qui ne se comportait pas comme le zoom de la version Android. Tu m'avais répondu à l'époque que c'était très bien d'avoir des différences entre les deux versions. Donc maintenant, Vous essayez de les rapprocher?
Bon, on essaye d'harmoniser au maximum les parties graphiques, mais on aura toujours des différences liées aux plateformes techniques, hein. Ça, c'est certain. Après, on joue un peu de ça, on rajoute quelques fonctionnalités d'un côté, mais pas d'autres. Après, c'est comme on est deux développeurs, chacun sur sa plateforme, on va dire, on rajoute de petites touches personnelles.
D'accord.
Ouais. C'est bien un petit peu.
Ah, c'est bien parce que ça génère des jalousies entre les flasheurs Android et les flasheurs iPhone qui passent leur temps à se montrer ce que n'ont pas les autres.
Bon, dans la V3, ben, typiquement, dans la V3, on a une des différences qu'il y avait, c'était l'affichage de la vignette dans la galerie, qui était présente sur Android et qui n'était pas présente sur iOS, qui donnait donc une plus d'épure sur iOS, mais qui permettait sur Android d'avoir les infos. Et ben, le fait d'avoir gardé ces deux versions, de ne pas avoir choisi à l'époque, ben, ça a fait que pour la V3, on a rajouté la possibilité de faire les deux. Donc nourrir un petit peu de différence, garder un peu de différence et les accepter, ça permet aussi de grandir après.
Est-ce qu'il y a des fonctions cachées dans ces deux applis ou peu connues? Il y en a une qui revient de temps en temps qui est de maintenir le doigt enfoncé sur une request pour l'effacer. Sur la V3, il y a la possibilité de mettre un raccourci sur l'écran verrouillé de l'iPhone. Vous avez d'autres petites fonctionnalités comme ça que les flasheurs utilisent peu ou ne connaissent pas?
S'il y en avait, on ne le dirait pas.
D'accord, bon, bah alors on va devoir s'amuser à chercher dans tous les coins et appuyer sur plein de zones de l'écran. Est-ce que le développement des deux versions est permanent? Ou est-ce que vous êtes aussi sur la partie serveur?
Alors, Adrien, il travaille beaucoup sur la partie serveur, en plus de la partie iOS. Après, le développement, il se fait un peu au fil de l'eau. On fait pas mal de mises à jour pour la compatibilité avec les nouveaux téléphones, par exemple, les nouvelles plateformes, les nouvelles API. Maintenant, ben là, par exemple, on va sortir cette V3 où on va faire des changements graphiques et on va essayer de rajouter des nouvelles fonctionnalités. Mais ça se fait toujours un peu au fil de l'eau, pas de manière constante.
En parlant du serveur, les joueurs qui essaient frénétiquement ont parfois le message Too many flash today. D'où ça vient et est-ce que vous prévoyez des évolutions sur ce point?
Donc la limitation du Too Many Flash Today, c'est ça part du constat que ben, on a vraiment ces dernières années une progression du nombre de flashs journaliers qui devient quand même assez impressionnant. Et en fait, ben, quand ça flash pas, c'est normal, hein, les joueurs réessayent, ils réessayent, ils réessayent. Donc ça envoie beaucoup de requests. Et en fait, il faut un moyen de limiter ça pour pas faire crasher l'ensemble du site.
D'accord.
On a eu d'ailleurs très récemment des problèmes de surcharge. On a effectué une mise à jour de serveur donc pour arriver à encaisser la charge et être prêt pour la V3. Dans le futur, j'ai des pistes d'amélioration pour être peut-être plus souple avec le nombre de flashs journaliers envoyés, et aussi pour améliorer encore un peu la reconnaissance de certains SI. Typiquement, il y a certains SI qui, une fois passés en valeur de gris, sont quasiment invisibles, ce qui les rend difficiles à flasher. Donc, maintenant qu'on en a un peu plus sous le pied, maintenant qu'on a une machine un peu plus puissante, on va pouvoir envisager de complexifier un petit peu le matching pour l'améliorer.
Sur cette limitation du nombre de flashs par jour, est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir un moment où vous prévenez le flasheur avant qu'il soit bloqué, pour qu'il lui-même ralentisse, je ne sais pas
Oui,
comment il pourrait le comprendre, hein, mais qu'il soit, voilà, qu'il ne se soit pas tout ou rien?
typiquement, pour l'instant, c'est un peu bête et méchant, mais voilà, ça peut être amélioré.
Ok. L'appli joue déjà énormément avec la fibre collectionneur. Ajouter l'info ville complète était, j'imagine, pour pousser encore plus ce côté-là. La V3 affiche maintenant directement le nombre de villes flashées. Tout tourne autour de la collection.
Est-ce que tout tourne autour de la collection? Oui, bien sûr que ça joue sur cette fibre-là. Le but n'est pas non plus que ça devienne obsessionnel, même si clairement ça le devient pour certains.
Oui, il y a un côté de toute façon où le nombre de villes collectionneurs, de toute façon, c'est des chiffres qui sont potentiellement inatteignables sur Paris parce qu'il y a un nombre de invaders qui n'existent plus, qui sont cassés. Donc c'est non, le but c'est pas de toutes les collectionner, c'était pour donner un peu plus d'informations aux utilisateurs, mais pas de les pousser dans une fièvre collectionneuse.
Non, qui n'ont pas du tout déjà.
Oui, ils n'ont pas besoin de nous, effectivement.
Oui, c'est ça. Ils n'ont pas besoin de ça.
Est-ce que vous avez pensé aller encore plus loin dans la gamification, comme ajouter des défis, je sais pas, ça pourrait être le nombre max de vessies flashées en 24 heures ou des bonus. Bon, ça poserait problème pour les anciens joueurs, mais ça pourrait se faire. D'ailleurs, dans la V3, si je me trompe pas, il y a une option qu'on ne peut activer qu'à partir de 100 flashs. Donc on est déjà dans des paliers.
Oui, on a pensé à rendre encore plus de à gamifier encore plus le jeu. Mais comme je le disais tout à l'heure, on aime bien garder le côté simple, en fait. Et rajouter trop d'éléments de ce type-là, on l'a fait là pour skip le boot screen, mais rajouter trop d'éléments de ce type-là, ça nous a pas paru si pertinent que ça. Par contre, pour ce qui est de faire des défis, le max de SI flashé en 24 heures, donc je peux en parler vu que ça va pas être fait, mais on a soumis l'idée pour les JO, de faire notre propre JO Flash Invader parallèle, avec une épreuve qui aurait duré peut-être 24 heures ou peut-être 10 heures. Et donc on aurait sorti carrément une autre application qui aurait été juste valable pendant ce temps-là et juste pour faire une compétition comme ça sur Paris. L'idée est très marrante. Dès qu'on projette un peu dans la réalité, c'est beaucoup moins marrant. Parce que ça aurait entraîné en fait des gens en scooter qui tracent partout dans Paris pour aller flasher et voilà, pas envie de gérer
Les gens qui se mettent en
tout cet aspect.
danger.
Voilà.
Je vois pas pourquoi vous dites ça, on n'est absolument pas
Ouais,
fous.
c'est
Ça ne nous
ça.
ressemble pas du tout.
Ouais. Ouais, on en reparlera après, mais c'est vrai que c'était pas l'essence du jeu à la base pour nous de collectionner tout.
Ok. Une partie des flasheurs est très geek et souvent data addict. Ils compilent des données, font des courbes et plein d'autres choses. Un doux rêve de leur part serait que vous mettiez à disposition un jour un moyen de récupérer des infos comme le nombre de flashs d'une journée, les flashs d'un SI particulier, etc. Ça n'arrivera pas, j'imagine.
C'est officieusement déjà un petit peu possible en allant requêter sur l'API Live en faisant gentiment.
Oui.
Voilà. Par contre, après, il faut mettre à la limite de à quel moment on divulgue un peu trop d'informations sur les joueurs. Est-ce que ça va aussi permettre à des joueurs qui vont scripter des choses de les favoriser dans le jeu? Bon, c'est voilà, faut définir cette limite-là. C'est jamais très simple.
Ouais, bon, des petits chiffres là comme ça, comme on est entre nous et que ça ne sortira pas d'Internet. Le SI le plus flashé, donc c'est PA 1213, il est actuellement à 70 585 flash, suivi de PA 926, celui avec une couronne en face de Beaubourg, qui est à 68 612 flash. Et enfin, PA 1156, celui du chat de Alice au Pays des Merveilles, qui est à 68 236 flash. Donc voilà, ça c'est le top 3 là actuellement, lundi 1er juillet 2024.
Génial. Ah, merci pour ces stats, c'est trop bien. Et le chat, je l'adore.
Ouais, elle est pas mal.
Ouais. Les 30 millions de flashs vont bientôt arriver. Est-ce que pour fêter ça, vous ne pourriez pas compiler, comme tu viens de le faire là sur 3SI, mais compiler un peu plus de données et les communiquer, mais juste en one shot une fois au moment du passage à 30 millions. Mais je pense que ça pourrait intéresser beaucoup de monde sur le nombre de flashs par ville envahie, les SI les plus et les moins flashés, le nombre de joueurs actifs, enfin, des choses pour être sympa à voir sur une infographie.
À voir avec l'artiste.
D'accord. On verra ça on est à 26 millions et quelques, on verra ça dans 3 millions et demi. Même si tout ça n'est qu'un jeu, certains sont profondément accros et seraient fous s'ils perdaient leur flash. Dans un podcast précédent, des flasheurs racontaient leur flash perdu à la suite d'une panne de novembre 2016. Même si c'est extrêmement rare, vous avez des solutions techniques aujourd'hui pour éviter ça?
Ouais, donc on parle effectivement d'une panne en novembre 2016 qui avait été due à un crash du serveur. Alors déjà à l'époque, on avait mis en place quelques sécurités, de la sauvegarde. Malgré ça, bah, on avait quand même perdu les flashs sur la journée. Donc là, on essaye de faire au mieux. On a mis en place d'autres mécanismes en termes de sauvegarde, de réplication. Malgré tout, bah, on est quand même sur quelque chose d'assez simple. Donc, et on ne veut pas monter une usine à gaz. Le jeu, bah, il reste gratuit. Donc, on a des moyens quand même qui sont déjà extraordinaires, mais limités par rapport à un service professionnel.
On parlait tout à l'heure du ralentissement du premier week-end de juin. C'était dû à quoi?
Une surcharge.
Ouais, c'est ça. En fait, on a de plus en plus de joueurs
D'accord.
et le serveur est capacité limitée. Donc c'est pour ça qu'on a dû upgrader un peu le serveur pour supporter cette charge supplémentaire et puis essayer d'optimiser par-ci, par-là. Ça consomme un petit peu moins de ressources.
Ouais. C'est tombé pile au moment de l'invasion de Londres. C'était lié ou pas?
Non, pas spécialement.
Non, c'était même un petit peu avant. Ouais, on avait déjà eu
Ouais.
des ralentissements quelques semaines avant.
D'accord. Enfin, je dis l'invasion, je dis la nouvelle vague de Londres, mais oui.
Ouais. Le traitement d'image est une opération qui est coûteuse. Donc, j'ai fait en sorte qu'elle soit le plus efficace et light que possible, tout en donnant des résultats corrects. Mais avec l'explosion qu'on a de flash, il y a un moment où c'était devenu difficile. Pour donner un ordre d'idée, quand on a la première année en moyenne, on était à 500 flash valides journaliers. Et aujourd'hui, en 2024, on a eu une journée de pointe à 53 600 flash. Donc de flash valides.
Ben, c'est ça.
Et bien sûr, c'est concentré sur le samedi après-midi quand il fait beau.
Bien sûr.
Oui, c'est ça, entre.
Donc, c'est pas réparti équitablement
Ouais,
sur
ouais.
24 heures.
Tu parlais d'optimisation de la reconnaissance, donc en commençant par restreindre en fonction des coordonnées puis la reconnaissance. À l'époque, il y avait 3000 invaders, aujourd'hui, il y en a 4000, je sais plus, 4200. Donc ça n'a pas non plus explosé côté Invader, enfin côté Mosaïque, pardon, à reconnaître. Par contre, ça a explosé côté joueur.
Oui, c'est ça.
D'accord. Des questions sur le live et la surveillance faite par l'atelier. Est-ce que ça prend beaucoup de temps et pourquoi vous le faites?
Alors, ça prend du temps, on le fait pour que l'application fonctionne mieux. Et quand on voit des faux positifs, donc des copycats qui ont matché parce que ça ressemble, c'est pas très loin d'un vrai SI, et que pour une raison ou pour une autre, ça a matché, ben on va corriger les matching images. Donc voilà, c'est pour le meilleur fonctionnement de l'appli, et ça fait 10 ans que cette base de données de matching image évolue et corrigée et améliorée.
D'accord. Est-ce que vous flashez tous les deux, au-delà des tests, je parle de flasher pour le plaisir, sans donner vos pseudos, bien sûr.
Bah, nos pseudos, ils vont pas être difficiles à trouver, enfin en tout cas le mien. Oui, on joue, bien sûr. On est des joueurs, les premiers joueurs, donc c'était la motivation pour faire cette application. Moi, personnellement, le but de cette application, c'était découvrir les œuvres d'Invader et surtout de me balader, de découvrir d'autres endroits. Typiquement, quand je suis allé au Japon il y a quelques années, ça m'a permis de découvrir des nouveaux quartiers dans lesquels je ne serais jamais allé si j'avais pas été trouver les invaders cachés sur les murs.
Ça, c'est quelque chose qui revient extrêmement souvent chez les invités. Ouais. Et donc même pour vous deux.
Ouais, c'est ça.
Oh ben oui, et puis de base quand même, l'idée elle est venue en se disant ah, j'aimerais bien jouer une appli comme ça. Donc évidemment que 10 ans après, moi je vois un nouveau space au coin d'une rue, forcément je le flash avec grand plaisir.
Personne ne devait imaginer un tel succès, pas même Invader. Flash Invader est aujourd'hui, donc je disais tout à l'heure, à 26 millions de flash, plusieurs flash par seconde, presque 400 000 joueurs. Vous imaginiez ça comment à l'époque et vous imaginez l'avenir comment?
Bon, on n'imaginait pas. On pensait que ça allait être resté une application un peu confidentielle, jouée par quelques personnes, et puis que ça, le nombre de joueurs baisserait naturellement avec le temps et qu'on n'en parlerait plus, quoi. C'est bien trompé.
Personnellement, moi, j'avais imaginé qu'il y aurait plus de joueurs au début, mais que ça retomberait très rapidement. Et c'est exactement l'inverse qui s'est passé.
Ça a commencé à exploser quand?
Bon, il n'y a pas eu de date d'explosion, en fait. Ça augmente de façon constante, ouais.
Ouais.
Il n'y a pas eu d'explosion, mais effectivement, ça a commencé tranquillement, et puis on a pris des joueurs en plus, voilà, pour arriver doucement à donc qu'on a actuellement.
Mais comme le disait Invader dans la préface de la BD de Karamidas, qui on peut passer le bonjour au passage, c'est vrai que pendant cette année de développement, on était tellement obnubilé par trouver une interface qui marche bien, faire en sorte que ça matche, que tout simplement que ça matche, que le jeu fonctionne, qu'il ait de la gueule et que bah, qu'on arrive à le sortir. On était tellement obnubilé par ça qu'en fait on n'avait pas pensé spécialement aux joueurs et à ce qu'allaient devenir les flasheurs que tu représentes grandement ici. Et voilà, et je pense que ça peut être le moment de parler de bah déjà de remercier évidemment tous les joueurs, tous les flasheurs, parce que bah en fait un jeu quand il n'y a personne qui joue, ben ça sert à rien. Donc merci, merci à tous ceux qui nous écoutent et qui jouent.
Merci à vous.
Ensuite, évidemment, un énorme merci aux réactivateurs. Là, on est quand même dans un autre stade. Moi, personnellement, ça m'a incroyablement touché de voir des spaces que, quand j'ai commencé à développer l'application, qui étaient là, et je les voyais, je testais l'application avec, et quelques années plus tard, bam, ils sont détruits, et ça m'a vraiment touché, quoi. Et de les voir réapparaître comme ça maintenant, même de les voir aujourd'hui dans Paris, on en voit plein qui sont bichonnés, nettoyés, là, par les équipes qui les entretiennent. Et ça c'est incroyable. Alors d'un point de vue technique, ça améliore le matching aussi. Donc moi, je suis très content hein, quand la pièce est bien clean. Mais voilà, ça c'est vraiment quelque chose qu'on n'aurait pas imaginé, que ça prenne une telle ampleur. Et voilà. Donc merci, merci mille fois à tous les réactivateurs. Et bravo pour leur boulot, parce que c'est pas évident.
Sachant qu'il y a des pièces qui sont réactivées 5-10 fois, c'est assez fou.
Ah ouais, ah ouais.
Des petites pièces en barre, reposées, reposées, reposées encore et encore.
Ouais, non, mais ça donne quelque chose, une dimension un peu immortelle, au space, quoi, qui revient. Et hein, je trouve ça très beau. Et voilà, longue vie au space et à tous les réactivateurs.
Super. J'ai cru comprendre que tu voulais parler de Versailles, c'est ça?
Oui, alors, en gros, l'application a apporté énormément de joueurs. Il y a plein de gens qui ont découvert l'art d'Invader, même le street art, grâce à l'application. Et c'est très bien. Mais il y a aussi une phase plus ennuyeuse qui est liée à cet engouement. C'est que, aussi léger que ça puisse sembler, l'impact des flasheurs qui viennent sur une pièce qui a été réactivée ou qui vient d'être posée et qui vont bombarder de stickers des endroits, perturber potentiellement les lieux, et ben ça n'aide pas à la préservation des invaders parce que les gens. Donc c'est arrivé par exemple à Versailles, tous ceux de Versailles ils ont été enlevés parce que ben il y avait des flasheurs un peu. On va dire un peu obsédé, qui commençait à retourner un peu tous les coins de Versailles.
Alors ceux du château et des jardins du château et pas ceux de la ville. Donc la
Oui,
deux,
bien
c'est
sûr,
ça.
ceux des jardins, oui.
C'est ça.
C'est un petit peu ce côté qui est toujours ambivalent, qui fait que Invader, il a une relation d'amour-haine vis-à-vis de l'application. C'est que elle amène beaucoup de choses très positives et en même temps, c'est un espèce de poids de savoir que chaque fois qu'il va poser quelque part, eh ben, il va y avoir une vague de flasheurs comme ça. Ça a quelque chose de marrant, mais pour lui, qui est quand même avant tout et à juste titre concentré et intéressé par son art et par son invasion, c'est quelque chose qui peut le perturber là-dedans. Voilà. Donc bon, on peut profiter de cette interview pour essayer d'appeler à la raison les flasheurs et à respecter les lieux, en fait, et les gens.
Oh oui, ok, je suis tout à fait d'accord. Est-ce que vous voudriez ajouter autre chose?
Moi, j'ai quelques trucs à rajouter. Bah, dire que Flash Invader est principalement fait pour tout le monde. Et que, bien sûr, qu'ici, dans ce podcast, il est écouté majoritairement par des gros joueurs. Mais Flash Invader, comme le street art, c'est fait pour tout le monde et n'importe qui. Et c'est fait pour la masse. Et c'est ce qu'on a essayé de faire avec Julien. On fait en sorte de garder une rétrocompatibilité avec les versions d'iOS et d'Android les plus grandes possibles. La V3, elle est compatible à iOS 12. Donc ça fait qu'avec un iPhone 5S, on peut la faire tourner. C'est des choses qui sont importantes pour nous. C'est important parce qu'en même temps, ben, c'est comme le street art. C'est accessible à tous, c'est dans la rue. Donc voilà, c'est une volonté qu'on a, une démarche, et c'est pas forcément facile, hein, mais c'est quelque chose d'important qui nous tient à cœur. Ensuite, on a la fierté de bosser quand même avec une stack open source, quoi, quelque chose qu'on maîtrise en entier. Et donc, ben, mine de rien, tout ça est possible parce qu'il y a des gens à l'autre bout du monde qui développent des petites briques qui sont accessibles à tous. Et nous, on rempile les petites briques et on fait des trucs comme ça. Donc, c'est un peu des travailleurs de l'ombre, hein, mais voilà, je trouve ça important d'en parler quand même. Préciser qu'il y a eu un cadeau, un moment pour les 100 premiers, c'était à la fin de la première année, je crois,
C'est ça.
Ouais. Il n'y en aura pas d'autres, hein, soyons clairs. Ça a déjà été dit, mais autant le redire. Voilà. Dans un de tes podcasts, tu avais fait remarquer que l'application était gratuite et qu'il n'y avait pas de pub. Et c'est quelque chose dont on est très fier. C'est bien sûr Invader qui permet ça, hein, qui soutient, qui paye les serveurs, qui paye tout ce qu'il y a à payer. Mais voilà, c'est un plaisir de pouvoir offrir aux gens cette petite bulle d'inutilité, sans pub, sans vocation monétaire directe, de pouvoir les faire se promener dans les villes en regardant autre chose que des écrans géants de pub, et voilà, d'aller juste de pouvoir permettre ça, de pouvoir offrir ça aux gens, c'est quand même ce qui nous anime pas mal depuis 10 ans.
Vous pensiez que ça générerait. Alors, on ne parle pas des comportements négatifs comme celui de Versailles tout à l'heure, mais des gens qui visiteraient le monde entier avec Flash Invaders comme but. Enfin, je vois là sur. Donc, c'est le 40e podcast. J'ai interviewé des gens qui racontaient des choses complètement incroyables. Évidemment, Potosi, mais un peu partout dans le monde. C'est à la fois Invader avec son œuvre et son idée de poser un peu partout et de faire découvrir des villes, et vous avec l'appli qui fait le lien.
Non, non, on n'imaginait pas tout ça. C'est vrai que c'est toujours incroyable d'entendre les histoires des joueurs, ce qu'ils ont fait, jusqu'à où ils ont pu aller pour aller prendre en photo des invaders. Non, on ne s'attendait pas du tout à ça, hein.
Non, on rigolait au début en développant l'application, en disant que ça serait quand même marrant. Qu'au cours d'un voyage, en passant à New York, bam, on puisse flasher à New York. On n'aurait vraiment pas imaginé que des gens en feraient un but de voyage.
Ah mais c'est ça, c'est devenu ça pour beaucoup de gens.
Pour beaucoup de gens, bon, faut quand même relativiser, hein,
Bien sûr, mais...
pour beaucoup de gens de la communauté du top 100, hein, mais la majorité des gens
Non, non, mais on parle de
ne
notre
feraient pas
bulle et on
ça.
parle du sujet du podcast, évidemment.
Oui. Mais voilà, faut pas oublier que l'application, elle est quand même faite pour beaucoup de gens, pas pour le top 100.
Bah, je dirais quand même que ça va au-delà du top 100, parce que même moi, je rencontre des gens qui me parlent de l'application et qui choisissent un peu leur destination de voyage en fonction des villes envahies par Invader. C'est pas forcément des très gros joueurs.
Bah, je pense qu'aujourd'hui, on doit être dans le top 1000 ou le top 2000, hein.
Ouais, c'est surprenant d'influencer comme ça la vie des gens avec notre petite application faite dans un coin.
Bon, on est 10 ans plus tard. Vous pouvez plus dire faites dans un coin.
Oh, ça reste toujours très
Ah,
artisanal, hein.
toujours, ah, c'est, ouais, toujours,
Ouais.
oui, toujours.
Eh ben, moi, je pense qu'on a fait le tour.
Merci de nous avoir donné la parole. Voilà.
Ben oui, merci pour ton podcast.
Les travailleurs de l'ombre.
Ben, merci à vous deux, c'était top de faire cette interview. C'était top d'enfin vous entendre et d'avoir toutes ces infos sur l'appli qui nous occupe, qui nous obsède. Et pas que l'appli, hein, évidemment, le travail d'Invader, mais c'est assez génial.
En parlant du travail d'Invader, je suis tombé en lisant Jacques Rancière dans En quel temps vivons-nous? Il définit l'artiste contemporain comme étant, par rapport aux artistes d'avant, très dans la création de ponts, dans les métamorphoses entre les différents médiums. Et Invader, c'est à la fois la performance, d'aller sur place, coller comme ça illégalement. C'est en même temps de l'art plastique et une imagerie, une recherche de l'épure qui est très fine. Et en même temps, il y a son travail de photos, de création de cartes, de livres, même de vidéos. Et je trouve qu'il rentre bien dans cette définition de l'artiste contemporain. Et avec l'application, on a en fait amené une chose que lui, il a senti au passage assez tôt, c'est que il a pris l'élément virtuel et il l'a amené dans le réel, il a pris le Space Invader pixelisé, et il l'a concrétisé comme ça. Et avec l'application, on refait un pont dans l'autre sens, en ramenant le réel dans le virtuel, dans la galerie, dans l'application. Et cette boucle, ce pont-là, que à notre petite échelle, on ait pu participer à ça, c'est quelque chose dont on est fier et qui est belle et sympathique.
Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. T'as fait la conclusion parfaite. Écoute. Bah, merci Julien et Adrien. Merci tous les deux pour cette interview.
Ouais, bah, alors je tiens à remercier Invader, hein, parce que
Sans lui.
tout le jeu, s'il n'y avait pas d'Invader, eh ben, ça serait quand même
Exactement.
moins marrant. Et évidemment,
Invader et toute l'équipe.
et tout l'atelier, bien sûr, tout l'atelier. Et voilà, et puis une petite, on peut aussi faire un petit remerciement à nos proches qui, du coup, nous supportent toutes nos
Oui.
discussions à propos de carreaux de mosaïque posés dans la rue. Voilà, parce que bon, vous imaginez bien qu'on est un petit peu obsédés, nous aussi, à notre façon par tout ça. Et voilà, donc merci à tous.
Merci à vous deux.
Et ouais, j'avais
Ouais, mais...
une petite réflexion, comme ça, c'est en bonus, hein. Mais il y a quelque chose de marrant. L'art d'Invader, donc que ça soit avec le Rubik's Cube ou ces Space Invaders ou les petites figurines des Kinder là qu'on voyait, c'est quelque chose qu'on pourrait un peu rapidement qualifier de bonbon, de rappel à l'enfance. Il y a quelque chose au final de ça dans l'art d'Invader, quelque chose qui revient à l'enfance, une espèce de nostalgie, on pourrait voir comme ça à notre époque. Et ce que je trouve vraiment beau avec ce que l'application elle fait, c'est que à partir de cette nostalgie de remettre des personnages, des vieux jeux vidéo dans le monde réel, ça crée. On est en train de créer, donc avec les enfants qui se promènent partout dans Paris, qui vont découvrir des villes et des machins et qui vont flasher, on crée des souvenirs. On leur crée vraiment à ces enfants-là ce qui plus tard seront pour eux des moments nostalgiques. Ils se rappelleront quand ils étaient dans Paris, qu'ils allaient flasher les invaders, etc. Et je trouve qu'il y a une certaine, il y a une belle boucle, tu vois, entre comment l'art a été créé, comment au final ça crée aujourd'hui des souvenirs pour les générations futures.
C'est totalement vrai, j'avais pas du tout pensé à ça, mais tous ces enfants de flasheurs, tous nos enfants de flasheurs vont se retrouver un jour à penser à
Avec
se souvenir des
nostalgie.
moments avec leurs parents. Oui.
Ouais.
Et il y aura la deuxième ou troisième génération de flasheurs. On ferait un podcast dans 10 ans.
Plus mal en disant.
Ouais. Il va falloir qu'on maintienne l'application encore 10 ans.
Oula. Ça sera sur quoi? Ça sera plus sur téléphone.
Mais si, mais si. Merci, un grand merci.
Super, ben merci à toi, Seb.
Ben, merci à toi, ouais. C'était super.
À très bientôt.
Merci.
Fin de cette nouvelle interview, vous pourrez retrouver les précédents épisodes et les prochains sur toutes les applis de podcast et sur smile.fr. À très bientôt, bon flash.